journée bien blanche. Donc on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Encore une fois, merci d'être là. Ça me fait tellement de joie de vous compter parmi nous ce matin encore une fois. Alors prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, ce temps de partage, ce temps de communion qui n'est pas du tout virtuel, qui est tout à fait factuel et réel parce qu'on sent ta grâce qui se répand à travers nous et on sent ces liens d'amour que tu continues à tisser même dans ces circonstances bien particulières de pandémie, de distanciation et de confinement. Nous savons, Seigneur, que tu tisses entre nous ces liens par ton esprit. Alors bénis-nous ce matin, accorde-nous cette grâce d'entendre ta voix, de saisir ta parole et de faire en sorte, Seigneur, que cette parole trouve dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit, une terre qui est fertile pour qu'une fois implantée, elle puisse croître et porter ce fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Alors ce matin, j'appelle ta grâce sur la vie de ma sœur, j'appelle ta bénédiction sur la vie de mon frère, et je demande, Seigneur, que tu nous visites et que tu nous parles. Dis-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin d'entendre. Instruis-nous, Seigneur, comme tu l'as désiré et comme tu l'as préparé de toute éternité. Nous nous tenons à tes pieds comme Samuel, que tu avais interpellé et qui t'a répondu « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Nous aussi, Seigneur, nous te disons « Parle-nous, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. » Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le passage de ce matin, Proverbe 3, le verset 11 et 12, et c'est le verset 12 que nous débutons ce matin, mais je relis pour vous les deux versets de cette semaine. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Cette semaine, on complète notre série sur les instructions de Dieu à son enfant, qui passe à travers les instructions que Salomon a prodiguées à son propre fils. Mais nous, on prend cette parole aujourd'hui comme étant fils et fille du Père Céleste, et nous lui disons simplement de nous instruire, de nous apporter les réformes, de nous apporter les modifications dans nos agissements, dans notre façon d'être, afin que nous puissions correspondre pleinement à sa pure et pleine volonté, et qu'il fasse à travers nous ce qu'il désire. Alors cette semaine, oui, on parle de discipline, oui, on parle de correction, oui, on parle de ces moments où on ne fait pas ce que Dieu désire et où Dieu vient corriger nos actions et nos paroles. Parfois, c'est simplement au niveau d'une réprimande, donc une parole que Dieu nous adresse, mais quand nécessaire, Dieu peut aussi intervenir avec des gestes, et on parle maintenant d'une discipline, d'un châtiment ou d'une correction. Quant à des décisions que Dieu prend à notre égard, quant à des conséquences que Dieu prend à notre égard. Alors ce matin, trois mots importants dans cette première partie du verset 12. « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. » Éternel, le verbe « châtier » et le verbe « aimer ». Éternel, bien sûr, le terme « Yéhovah » qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises dans nos études. Donc, le mot s'appelle Y-E-H-O-V-A-H. Y-E-H-O-V-A-H. Le verbe châtier, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Donc, châtier, c'est le terme hébreu Yakash. Y-A-K-A-C-H. Je répète, Y-A-K-A-C-H. Et puis, finalement, le verbe « aimer », l'Éternel châtie celui qu'il aime. Le terme « ahab », apostrophe « a-h-a-b ». Je répète l'épellation. Apostrophe « a-h-a-b ». Alors, on va étudier ces trois mots-là. Vous savez que je trouve important de retourner au texte originel, avec les déclinaisons qu'un certain mot peut avoir. Parfois, quand on se limite à la traduction dans notre langue usuelle, on a un mot simplement, mais c'est intéressant de revenir dans la culture de l'époque et voir toute la portée qu'un mot pouvait avoir. Alors, éternel, châtier, aimer. L'éternel châtie celui qu'il aime. Et je trouvais important de rester sur ce mot éternel en tout premier lieu, pour que on ne soit pas influencé par le châtiment dans notre réflexion de ce matin, mais qu'on soit plutôt influencé par qui apporte la correction. Rappelons-nous qui donne cette correction, c'est l'Éternel, celui qui est, celui qui existe, le seul et le véritable Dieu. Donc de tous ceux qui se prétendent Dieu, il n'y en a qu'un seul qui l'est véritablement. De tous ceux à qui on accorde un certain pouvoir déifié, un certain qualificatif de Dieu, il y en a tout de même un seul, uniquement un seul, qui est Dieu, et c'est le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées, El Shaddai, Elohim, Jéhovah, peu importe le nom que vous voulez lui donner, puisqu'il a plusieurs appellations dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc lui, il est le seul qui existe réellement. Et c'est donc ce Dieu-là dont on nous dit, il châtie, il va corriger celui qu'il aime. Donc si la correction qu'on reçoit vient de ce Dieu-là, c'est comme si la personne la plus importante de l'univers, alors c'est pas comme si, c'est la personne la plus importante de tout l'univers qui prend du temps pour rectifier mes actions, qui prend du temps pour modifier ma façon d'être et qui prend du temps pour m'éduquer afin d'être pleinement celui qu'il désire que je sois. Ce créateur de l'univers, celui qui m'a aussi créé, qui avait pensé à moi de toute éternité et qui avait des projets pour moi, il prend aujourd'hui encore le temps pour s'occuper d'une faible créature comme moi, d'une minuscule poussière comme moi, pour faire en sorte que sa volonté s'accomplisse à travers ma petite personne. Et à la base, c'est un honneur de savoir que Dieu prend du temps me concernant, que Dieu prend du temps pour m'éduquer, pour me former, pour me façonner afin que je sois pleinement celui qu'il désire que je sois. Pensez un peu. Les mains de Dieu ont créé la terre, la lune, les astres, l'ensemble de l'univers. Ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'ensemble de l'univers, c'est ses mains qui l'ont créé. Et ces mêmes mains-là s'appliquent dans mon vécu à moi, dans mon vivant à moi, s'appliquent à façonner ma vie comme de l'argile entre les mains d'un divin potier. Alors juste ça devrait déjà nous parler de l'honneur qui nous est fait de la part de Dieu de pouvoir nous accorder ce temps, de pouvoir nous accorder ces efforts quant à nous façonner et nous rendre agréables à ses yeux. De surcroît à ça, s'il est effectivement celui qui est, celui qui existe, le seul et le véritable Dieu, Jéhovah voulait aussi dire celui qui est ce qu'il dit qu'il est. Et qui dit-il qu'il est? Il nous dit qu'il est amour. Dieu est amour. Il nous dit qu'il est bon. Il nous dit qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté. Ça veut donc dire que même dans sa discipline, les facettes de Dieu se manifestent aussi. Dans la discipline qu'il accorde à ma vie, dans la discipline qu'il exerce plutôt dans ma vie, il l'exerce aussi avec tous ses attributs, avec ses attributs d'amour, avec ses attributs de grâce, avec ses attributs de bonté, avec ses attributs de patience, avec ses attributs de fidélité, avec ses attributs de perfection. Le malheur qu'on a en tant qu'humain, c'est qu'on reçoit des incitatifs de la part de l'ennemi qui voudrait nous faire croire que Dieu est injuste. Et ça, c'est un scénario, un plan, c'est une méthode qu'il utilise depuis le premier homme et la première femme. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il a dit à Adam et Ève, Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas manger de ce fruit-là et que vous alliez en mourir. Et par la suite, il va rajouter, à travers le serpent, il va rajouter à Adam et Ève, il n'en est pas ainsi. Dieu sait que si vous en mangez, vous serez alors comme des dieux. Ce qu'il est en train d'inciter chez Adam et Ève, c'est non seulement l'insoumission, c'est non seulement le doute par rapport à la véracité des paroles de Dieu, c'est le doute par rapport à la perfection, à la bonté, à la grâce, à l'amour que Dieu a pour ses créatures. Il est en train de dire à Adam et Ève, Dieu est en train de vous voler. Adam et Ève ont chuté par rapport à ce mensonge-là. Ils ont cru qu'effectivement, en mangeant ce fruit, ils deviendraient comme des dieux. Et le diable, très souvent, vient avec cette même stratégie de nous laisser croire que Dieu n'est pas juste, que Dieu n'est pas amour, que Dieu n'est pas bon. Possiblement, il va nous dire, oui, Dieu est bon avec tout le monde, mais pas avec toi. Dieu aime tout le monde, mais il ne peut pas t'aimer. Et voilà pourquoi ce matin, je trouvais important de laisser les mots dans leur ordre par rapport à ce verset-là. Il commence en disant, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. » Il nous ramène à la base de celui en qui on croit. Il est effectivement qui il dit qu'il est. Et lorsqu'il manifeste une discipline à mon égard, lorsqu'il manifeste son autorité à mon égard, lorsqu'il se comporte envers moi comme un père qui corrige son enfant, ce qu'on va voir demain, il le fait avec tout l'amour, toute la grâce, toute la bonté, toute la douceur et tous les attributs merveilleux que nous connaissons chez lui. Alors, ramenons vraiment nos pensées à l'ordre. Ramenons vraiment notre réflexion à l'ordre. Dieu châtie, mais Dieu châtie bien. Dieu châtie justement. Dieu châtie non pas pour détruire, mais Dieu châtie pour nous élever, pour nous permettre d'atteindre ces statures, ces niveaux que Dieu avait pressenti, que Dieu avait voulu, que Dieu avait dessiné pour toi et moi. Alors oui, Dieu t'aime. Et quand il te châtie, il manifeste là encore son amour envers toi. Hier, je parlais, et je sais que ça a marqué plusieurs personnes, hier, je parlais de l'histoire de Saül. Dieu qui va dire au prophète, arrête de pleurer sur Saül, moi je suis passé à autre chose. Imaginez, Dieu se détourne de cet homme-là, du vivant de ce roi-là. On ne veut pas que Dieu fasse ça avec nous. Alors tant qu'il se manifeste, tant qu'il agit, même s'il est là pour corriger, pour rectifier ce que nous sommes, ce faisant, il prouve encore qu'il a espoir, qu'il a des... Yakash, celui qu'il aime. L'Éternel châtie, le terme hébraïque, Yakash. Ici, je vais vous le décliner en cinq différents synonymes, avec toujours une petite tangente différente et aussi une progression dans la compréhension du terme châtier. Le terme châtier, Yakash, veut tout d'abord dire éprouver. Dieu éprouve. Dieu nous met à l'épreuve. Qu'est-ce que veut dire éprouver? Soyons très clairs, il y a des gens qui pensent que lorsque Dieu m'éprouve, c'est pour que je puisse le prouver qui je suis. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pas pour illustrer à ses pensées à lui ou pour découvrir ce que nous sommes, de quoi nous sommes faits. Il le sait déjà. S'il ne savait pas de quoi tu es constitué, s'il ne savait pas quelles sont tes forces et tes faiblesses, quelles sont tes limites, à ce moment-là, il ne pourrait pas te protéger, puisqu'il ne connaît pas tes limites. Si Dieu est effectivement Dieu, bien on sait que notre Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait parfaitement toutes choses, en tout temps, en tout lieu, en toute époque, en toutes circonstances. Donc notre Dieu a la science infuse à ton sujet et au sujet de toute autre chose qui existe dans l'univers. Dieu te connaît tellement que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de ta tête, même quand il t'en reste beaucoup. Il n'y en a pas un qui tombe de ta tête sans qu'il ne sache que ce cheveu est tombé, et sans qu'il ne sache même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, dégarni ou pas, il connaît chacun des cheveux que tu as encore sur la tête, et il les a toujours tous connus. Donc ce Dieu qui te connaît ne t'éprouve pas pour te découvrir. Lorsque le Seigneur nous met à l'épreuve, c'est pour nous faire découvrir à nous-mêmes nos limites, nos faiblesses, nos manquements et les choses dans lesquelles il veut apporter des modifications. Non seulement il va te révéler à travers l'épreuve quelles sont tes limites, il va te montrer là où ta foi commence à défaillir. Vous savez, on proclame toujours « oui, oui, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, puis ma foi est forte ». Mais quand l'épreuve arrive, ben c'est à ce moment-là qu'on remarque que notre foi a une certaine limite. Surtout quand l'épreuve est difficile, on peut arriver à avoir une foi qui est défaillante. Mais je ne le découvrirai pas, je ne serai pas au courant de cela, à moins que je ne passe par l'épreuve. Donc, châtier, premièrement, c'est éprouver pour nous révéler à nous-mêmes notre besoin de Dieu, pour nous révéler à nous-mêmes nos failles, nos manquements et les choses dans lesquelles nous avons besoin de nous tourner vers Dieu afin d'être corrigés, modifiés, améliorés et façonnés encore et encore. Donc, châtier, éprouver. Deuxièmement, une fois que Dieu a éprouvé, ben Dieu juge. Notre Dieu est le juste juge. Donc, notre Dieu porte des jugements. Notre Dieu porte des jugements sur tout être humain. Notre Dieu porte des jugements sur toute créature qui a été créée. Et quand je parle de créature, je parle essentiellement du genre humain et on va dire du genre angélique. Puisqu'on sait que les anges sont déjà jugés pour ceux qui se sont détournés de l'Éternel, qui se sont rebellés contre lui. La géhenne, l'enfer a été créé en premier lieu pour Satan, pour le diable et pour les anges qui lui ont été qui lui sont des acolytes. Mais de surcroît à ça, le programme GN a été augmenté aussi pour tout homme et toute femme qui ne se tournerait pas vers Dieu pour recevoir le salut, le pardon de ses fautes et de ses iniquités. Mais notre Dieu pour être juge, notre Dieu pour être juste juge, doit effectivement juger. Donc Dieu va juger tes paroles, Dieu va juger chacune de tes actions, Dieu va juger même tes pensées parce qu'il les connaît. Au plus profond de toi, il sait les pensées qui t'habitent et il sait si ces pensées-là le glorifient ou non. Alors notre vie tout entière va être passée en jugement. La Bible nous en parle et je n'irai pas beaucoup là-dedans parce que le pasteur André nous a déjà donné un bon cours sur l'Apocalypse, mais on sait qu'il y a deux tribunaux, ou deux tribunaux plutôt, lorsqu'on parle de la fin des temps et de l'Apocalypse. Il y a un tribunal qui est consacré aux inconvertis et il y a un tribunal qui, malgré tout, est consacré aux justes et à ceux qui sont sauvés. Alors, même en étant sauvé, je vais quand même être jugé. Et dans ce jugement-là du sauvé, c'est là qu'il va y avoir le décompte des couronnes qui nous sont à chacun accordé selon notre fidélité et selon notre condition avec Dieu. Donc Dieu éprouve, Yakash éprouve, Dieu Yakash juge, mais après avoir jugé, donc après avoir sous-pesé ton pour et ton contre, après avoir sous-pesé ce qui est bien et ce qui est mal, Dieu réprouve. Ça veut dire que Dieu n'est pas là comme un yes man. Il y a cette expression en anglais de ces personnes qui entourent quelqu'un d'important ou quelqu'un en autorité et qui ne le conteste jamais, qui ne le contredit jamais, qui sont simplement là pour dire oui, oui, oui et applaudir. C'est ce qu'on appelle un yes man. Dieu n'est pas un yes man avec toi et avec moi. S'il l'était, il serait injuste. Dieu ne pourrait pas juger quelqu'un s'il décide délibérément de ne pas me juger. Dieu ne pourrait pas juger quelqu'un s'il ne décide pas de surcroît à me juger, de me juger avec les mêmes critères qu'il a jugé et qu'il juge les autres aussi. Donc, pour toi, Dieu va approuver certaines de tes œuvres, mais Dieu va aussi réprouver certaines de tes œuvres. Donc, le troisième terme, réprouver. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis que Dieu va contester. il y a des actions que tu poses que Dieu va réprouver, que Dieu va déclarer comme abomination, que Dieu va déclarer comme étant péché, comme Dieu va les déclarer comme étant mauvaises. Donc Dieu ne va pas simplement applaudir tout ce que tu fais de bien, mais ce que tu fais de mal, Dieu va aussi le réprouver. Il a ce droit. Un papa regarde les actions de son enfant et dans une journée, il dit « voilà ce que tu as fait de bien et voilà ce que tu as fait de mal. Tu as bien fait ton lit, mais tu as laissé tes vêtements sales traîner sur le plancher depuis une semaine. » Donc à ce moment-là, il dit « oui, je te félicite, tu as bien fait ton lit, mais dans le coin du lit, n'oublie pas que tu as laissé des affaires traîner alors que je t'avais dit de les ramasser. » Donc un père applique effectivement cette approbation et cette réprobation sur la vie de quelqu'un, un Père céleste fait de même. Il va approuver des choses dans notre vie, mais il va aussi réprouver des choses dans notre vie. Et Dieu doit réprouver des choses pour que nous puissions aller d'amélioration en amélioration et de progrès en progrès. Je dis parfois que les personnes qui nous font progresser le plus dans notre vie, ce ne sont pas les personnes qui nous acclament. Les personnes qui nous acclament, si on restait identique pour le restant de notre vie, ben ils seraient tout simplement contents puis ils continueraient à nous applaudir parce qu'ils sont satisfaits de ce que nous sommes. Les personnes qui suscitent le plus de transformation, et ça c'est un aparté, les personnes qui suscitent le plus de transformation et de changement dans notre vie, ce sont très souvent les gens qui ne sont pas d'accord avec nous parce qu'ils nous apprennent à apporter avec plus de sagesse, avec plus d'éloquence, avec plus de jugement, notre pensée. Ils nous apprennent à agir en essayant de convaincre celui qui n'est pas d'accord. Ils nous apprennent à utiliser la patience, à utiliser la douceur, à utiliser la tempérance à leur égard. Alors qu'il est bien facile d'aimer, de faire la collade. Bon, maintenant, la collade, on n'a plus le droit de le faire. Mais il nous est facile d'aimer ceux qui nous approuvent, ceux qui nous acclament, ceux qui applaudissent nos actions, nos faits, nos gestes et nos paroles. Mais quand quelqu'un vient désapprouver, finalement, cette personne suscite chez nous beaucoup plus de changements que la personne qui voulait simplement nous garder identiques à ce que nous étions déjà hier. Lorsque Dieu réprouve nos actions, il nous permet en fait de voir, voici ce que j'ai manqué, voici ce que j'ai raté, voici ce qui ne glorifie pas Dieu, et voilà dans quel chemin Dieu veut m'amener pour m'améliorer et progresser. Donc si Dieu ne réprouvait pas, nous pourrions stagner et ne jamais progresser. Donc Dieu Yakash éprouve, Yakash juge, Yakash réprouve, et après avoir réprouvé, donc il a dit, j'approuve ceci, je juge ceci, je désapprouve telle autre chose, ben il va dire par la suite, je réprimande. Et la réprimande, c'est la sanction orale de Dieu. Donc, je te dis, je ne suis pas content, tu as mal fait. Dieu ne va pas te laisser simplement dans l'ignorance de ceux qui n'approuvent pas. Il y a des choses que les gens font, on réprouve la chose sans pour autant réprimander la chose. Je ne sais pas, votre voisin coupe mal son gazon, ça vous embête, vous réprouvez sa technique de la tondeuse, vous réprouvez sa technique de tondre le gazon ou de la tonte de gazon, mais tant que vous ne lui dites pas, vous n'avez pas fait quoi que ce soit dans sa vie. Vous n'avez pas suscité quoi que ce soit dans sa vie. Donc Dieu va réprimander. Dieu va nous dire la vérité par rapport à nos mauvais faits, à nos mauvaises paroles. Dieu va nous dire effectivement, mon fils, tu ne me glorifies pas. Ma fille, tes paroles ne m'élèvent pas. Mon fils, tes actions n'élèvent pas mon nom. Ma fille, tes comportements viennent porter honte à notre royaume, à mon royaume. Donc Dieu va réprimander. La réprimande est une sanction, on va dire, orale. Gloire à Dieu si on arrive simplement à ce niveau-là. Gloire à Dieu si on est capable d'être modifié avant qu'on arrive à la réprimande, avant qu'on arrive au jugement oral de Dieu. Mais de surcroît à ça, je vous dirais que si on n'obéit pas lorsque Dieu nous dit clairement, mon fils, je n'aime pas ça, et Dieu a pris le temps de le faire avec Saül, mais à un moment donné, il y a la punition qui vient. Dieu avait averti le sacrificateur Élie de prendre soin de ses enfants et de s'assurer que ses fils, qui étaient en train de forniquer dans la maison de Dieu, qui étaient en train d'utiliser et de manger la nourriture qui était dévolue à Dieu dans les sacrifices, qui s'empiffraient, qui s'enivraient et qui forniquaient, Dieu avait demandé à Élie, le sacrificateur, et non pas le prophète, Élie, L-E-I, et non pas E-L-I-E. Donc Élie, celui chez qui habitait Samuel, il va lui dire de prendre soin de ses enfants et de corriger ses enfants. Il ne veut pas le faire, et là, à un moment donné, le jugement vient. Lorsque Samuel est interpellé la toute première fois pour parler, et l'Éternel veut lui parler, lorsqu'il l'appelle Samuel, 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 et que Samuel va finir par répondre à la troisième reprise, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute », mais Dieu lui dit « Voici ce que je vais faire à la maison d'Élie ». Voici ce que je vais faire à Élie. Élie va mourir parce qu'il n'a pas corrigé ses enfants et parce que ses fils font ce qui est réprouvé, réprouvable, qui est en horreur à mes yeux dans la maison de Dieu et avec les choses qui servent à la maison de Dieu. Donc, il y a la punition qui va tomber. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Élie va tomber de sa chaise, va se cogner la tête et va en mourir. Et ça, c'était le châtiment qui venait de Dieu. Donc Dieu, à un moment donné, peut aussi susciter chez nous une punition, peut aussi sanctionner ce que nous allons faire avec un geste, avec une action, avec une prise de position ferme. La grâce de Dieu est que tant que nous sommes en vie, nous pouvons encore nous repentir. On ne voudrait toutefois pas arriver à ce point-là de Saül où Dieu se détourne de lui, où Dieu dit à propos d'Élie, « C'en est fini ». On arrête la chose. Donc, Yakash, celui qui châtie l'Éternel, donc Yakash, il éprouve, il juge, il réprouve, il réprimande et il punit. Mais il punit qui? Et c'est là où c'est bon, c'est doux et c'est merveilleux. Il punit, il châtie celui qu'il aime. Le terme « Ahab », comme on l'a vu tout à l'heure, apostrophe A-H-A-B pour ceux qui n'étaient pas là au tout début. Donc Ahab veut dire tout d'abord celui vers qui se portent nos désirs. Ça veut dire que lorsque Dieu châtie quelqu'un, c'est parce qu'il a des désirs envers cette personne, parce que Dieu a des plans, des projets envers cette personne. Si Dieu a abandonné ses desseins, si Dieu dit « je renie les projets que j'avais formulés à ton égard, je renonce à ces projets que j'avais formulés à ton égard », tu es terriblement en danger. Mais tant que Dieu châtie encore, ça veut donc dire que ses désirs, ses projets, ses plans sont encore possibles. Donc lorsque Dieu te châtie, tu peux le voir comme « ouais, je suis frustré parce que Dieu me frappe, Dieu me châtie, Dieu me punit, Dieu me réprimande. » Et assurément, il n'y a pas un enfant qui rigole et qui s'amuse et qui trouve agréable lorsqu'il est réprimandé par ses parents. C'est toujours pénible et la réprimande de Dieu est tout aussi pénible. C'est pas quelque chose qui réjouit notre cœur lorsqu'on y pense simplement avec notre nature pécheresse humaine. Mais lorsqu'on y pense avec du recul, Dieu m'a châtié, mais pourquoi? Parce qu'il m'aime. L'Éternel, le Créateur de l'univers, celui qui est bon et qui est amour et qui est patient et qui est doux et qui est juste et qui est fidèle, il m'aime. Et c'est parce qu'il m'aime qu'il me châtie. Il châtie celui qu'il aime. Pourquoi? Parce que si je n'étais pas châtié, si je n'étais pas corrigé, je pourrais m'éloigner des voies du Seigneur. Une pensée qui me vient à l'esprit, c'est cette image du berger. Très souvent, on a cette image un peu bucolique du berger, doux, gentil. On a le poète David qui est là avec sa harpe, assis au milieu de ses brebis, avec une tige de paille dans la bouche, un brin de foin dans la bouche, puis est en train de composer des musiques et puis penser à des poèmes et tout ça. Ouais, David le faisait, mais savez-vous qu'un berger a aussi une houlette et un bâton, et la houlette et le bâton n'est pas strictement dévolu aux ennemis, aux fauves, aux animaux de proie. La houlette et le bâton servent aussi pour la brebis. La houlette pour ramener la brebis lorsqu'elle s'éloigne, parce qu'il y a un crochet à la houlette. Et parfois, lorsqu'on s'éloigne, effectivement, Dieu nous attrape avec son crochet et nous ramène à lui. Mais lorsqu'une brebis a trop l'habitude de s'éloigner, et vous savez, cette brebis, la Bible nous dit, il en avait 100 et puis il y en a une qui a disparu, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Vous savez, cette brebis qui est tout le temps en train de s'éloigner. Mais lorsque le berger la retrouve après une, deux, trois, quatre, 10, 15 fois où la personne ou la brebis s'éloigne, Dieu utilise le bâton. Et le bâton, c'est pas pour taper sur les fesses ou pour taper sur le postérieur. Non, le bâton servait à casser une patte. Le berger pouvait casser une patte de sa brebis. Ce qui faisait que pendant un certain temps, cette brebis n'était plus capable de marcher. Et vous allez me dire, mais c'est combien c'est violent. En soi, oui, mais c'était pour le bien de la brebis. Pourquoi? Parce que le berger va casser la jambe de la brebis ne peut plus se déplacer, le berger va bander la patte de la brebis, et pendant tout le temps de la restauration de cette brebis, pendant tout le temps de la guérison de cette brebis, la brebis va être sur les épaules du berger ou dans ses bras, collée. Collé, collé au berger. Et pendant tout le temps de la guérison, il y a ce lien intense qui se forme avec la brebis et son berger. À un tel point que le jour où on enlève le bandage, que le jour où la brebis peut maintenant marcher par elle-même, cette brebis a tellement aimé être dans la présence de son Seigneur qu'elle ne va que marcher côte à côte avec lui, encore collée à ses pieds. Et très souvent, les brebis que vous voyez très, très collées au berger dans des images ou dans des films ou dans des reportages que vous pouvez voir, très souvent, ce sont des brebis à qui on a fait subir effectivement le bâton du berger. C'est une discipline. Il apprend à la brebis qui il est, combien il est le maître sur elle et aussi tout l'amour et toute l'affection qu'elle gagnerait à recevoir si elle restait collée, collée à son maître. Alors oui, le Seigneur parfois utilise le bâton et le châtiment pour nous, tout simplement parce que il a des désirs à notre égard. Dernier point, et je vous amène dans un autre passage, le terme aimé, arabe, veut aussi dire ami. Donc l'Éternel châtie celui qui est son ami. La grande question pour toi et pour moi, comment peut-on être l'ami de Dieu? La Bible nous dit que Abraham était considéré ami de Dieu. Il y a un endroit dans la parole de Dieu où c'est très très clair comment nous pouvons être amis de Dieu. Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 14, Jésus va dire clairement à ses disciples: Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Il est en train de dire, vous étiez des serviteurs. Je vous appelle ami parce que vous faites ce que je vous commande. Vous étiez simplement autrefois des serviteurs, maintenant je vous appelle amis, et je peux vous appeler amis parce que vous faites ce que je vous commande. L'Éternel châtie, oui, ses amis, ceux qui sont considérés amis de l'Éternel. Et Abraham, on sait tous combien il a été obéissant à la voix de Dieu. Il a été appelé ami de l'Éternel parce que lorsque l'Éternel lui a demandé le plus grand sacrifice, le plus précieux des sacrifices qu'il pouvait apporter, il n'a pas hésité à le faire et il est allé jusqu'au point ultime pour donner ce sacrifice. Et Dieu a béni la fidélité de son serviteur Abraham, qui était maintenant son ami. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'effectivement, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu amour, fidèle, bon, compatissant, effectivement, va quand même nous juger. L'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Dieu est bon, mais Dieu est un juste juge. Alors oui, il va châtier, il va éprouver ce que nous sommes pour nous révéler nos propres failles, nos propres limites. Il va juger nos paroles et nos actions. Il va réprouver ce qui ne lui convient pas. Il va réprouver ce qui n'élève pas son nom. Il va réprimander, il va te faire connaître qu'il est en désaccord avec tes plans, avec tes projets, avec ton attitude, avec tes paroles. Et si nécessaire, il va effectivement punir les actions. Il va y avoir des conséquences palpables aux actions, aux paroles, aux gestes que tu poses. Mais pourquoi le fait-il? Parce que Dieu t'aime et parce qu'il ne veut pas que tu t'éloignes. À l'image de ce berger qui, dans des cas extrêmes, va être amené même jusqu'à briser la patte d'une de ses brebis pour la garder près de lui, pour qu'elle ne s'éloigne pas et qu'elle ne se perde pas. Et c'est voilà ce que David avait compris. N'oubliez pas que David était un berger à la base, et il acceptait et il embrassait les châtiments que Dieu lui avait donné, ou les châtiments que Dieu déposait sur sa vie. Il ne s'est pas retiré de la discipline de Dieu. Il ne s'est pas éloigné de la discipline de Dieu parce qu'il le savait juste, il le savait bon, il le savait lent à la colère et il le savait rempli d'amour. Et même cette justice qu'il appliquait sur la vie de David, son serviteur David savait que cet amour allait se manifester même dans la discipline. Et voilà ce que David a communiqué à son propre fils Salomon. Voilà ce que Salomon tentait d'enseigner à ses propres enfants. Et voilà ce que Dieu nous enseigne à nous aussi aujourd'hui, le 25 novembre 2020. Alors voilà ce que nous avions pour nous ce matin. On va prendre le temps simplement pour prier, pour conclure. Et après ça, on va saluer quelques personnes et vous donner les rendez-vous qui vont suivre. Alors merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu es qui tu dis que tu es. Tu es bon, tu es grand, tu es doux, tu es patient, tu es rempli de miséricorde et tu nous aimes. Et nous savons Seigneur que tu nous châties pour notre propre bien, pour nous enseigner tout d'abord nos limites, pour ne pas dépendre de nous-mêmes, mais pour apprendre à dépendre de toi, pour connaître nos failles, nos faiblesses, pour dévoiler comment l'ennemi a placé des traquenards et des pièges dans notre vie. Oui, Seigneur, parce que tu es un juste juge, tu juges nos actions et nos paroles. Tu juges notre attitude. Tu juges, Seigneur, nos entreprises, notre action et notre inaction. Et parfois, Seigneur, tu réprouves. Ceux qui ne te plaît pas, ceux qui ne te glorifient pas, tu le réprouves, tu le réprimandes. Tu nous dis clairement quel est ton plan, quelle est ta volonté, et tu nous dis clairement, notamment dans ta parole, ce que tu appelles péché. Mais le péché, Seigneur, est aussi sanctionné. Seigneur, tu nous accordes encore le souffle de vie. Ce matin, tous ceux qui nous écoutent, c'est parce que tu leur accordes encore l'occasion de vivre en accord avec ta volonté et de vivre, Seigneur, selon tes principes. Nous ne sommes pas arrivés à notre dernier souffle, nous pouvons encore nous repentir et nous tourner vers toi. Alors merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as encore des plans pour ma sœur et mon frère. Merci, Seigneur, parce que tu as encore des désirs à leur égard. Et merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous enseignes encore comment être appelé ami de l'Éternel. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis parce que vous faites ce que je vous commande. Je prie, Seigneur, d'être un ami avec toi, d'être un ami pour toi, Seigneur, sachant que quand tu me demandes quelque chose, je le fais, sachant que quand tu commandes à ta fille de faire quelque chose, elle le fait, sachant que quand tu demandes à ton fils de faire quelque chose, celui-ci l'accomplit. Alors Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur mon frère et ma sœur. J'appelle l'onction de ton esprit pour bénir les paroles qui ont été partagées ce matin et pour nous permettre à tous et chacun d'en prendre les enseignements qui sont dus, de pousser les réflexions qui doivent être poussées, afin, Seigneur, que moi, ma sœur, mon frère, puissions être trouvés agréables à tes yeux. Change ce qui doit être changé. Réprime et réprouve ce qui doit être réprouvé et réprimandé. Et si la correction, Seigneur, doit descendre sur nous, nous savons que cette correction sera juste, sera équitable et sera pour notre bien. Alors, Seigneur, oui, nous comprenons ce que tu fais dans nos vies et nous t'en accordons le plein droit et la pleine liberté. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement saluer quelques personnes. Je remonte un peu sur mon cellulaire. La dernière personne qu'on avait saluée tout à l'heure, je pense que c'était Marie-Marthe, Georgette, Andrise et Suze. Donc bonjour à Yolaine, bonjour à Nancy. Bonjour à Diana, bonjour à Farley, Marie-André, bonjour à Didier, bonjour à Max et Noémie, bonjour à Camille, bonjour à Chanel, David et aux enfants, bonjour à Consuelo et à Jean, bonjour à Flori et à Louis, bonjour à Jimmy, Danica, bonjour à Evelyn, bonjour à Wesley, son épouse, j'ai oublié le nom de ton épouse, mon frère, sois béni, bonjour à Ramon, bonjour à Sophie, que j'ai salué tout à l'heure, aux amis et son époux. Bonjour à qui d'autre? À Tina et Christophe. Bonjour à Alain et à Winnie. Bonjour à Maïrem encore, Martha Lucia. Bonjour au frère Frédéric et à son épouse. Bonjour à Sylvie. Bonjour à Myriam et à Donald. Bonjour à Andrés, et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, juste nos rendez-vous ce soir, 19h avec le pasteur Sergio. C'est l'étude biblique qu'on a habituellement, donc 19h ce soir, on vous invite à être là. Et nous, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Alors, d'ici là, belle journée pour vous tous, bonne journée pour vous tous, sous les flocons blancs, que Dieu vous soutienne, qu'il vous garde. Et sachez que Dieu vous aime. Même lorsqu'il vous corrige, Dieu vous aime. Il est parfait, il est excellent, il est bon, il est amour et il vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.